Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi et dimanche sur RMC et de vous réveiller tranquillement. Tiens, si vous êtes encore sur la couette, vous avez bien raison, 7h09. Enfin, cela dit, la couette, là, avec la température qu'il fait, c'est plutôt sous le drap. Parce que la couette, ça fait un moment qu'elle est rangée. Merci d'être là. Bon réveil à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous animaux. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour 2 heures dédiées à l'automobile. Vous le savez, votre rendez-vous du dimanche dédié à l'auto. Un rendez-vous encore une fois exclusif, hein, puisque nous sommes la seule radio à vous proposer 2 heures dédiées aux animaux et aussi à l'auto le dimanche. Laetitia, tout à l'heure, on va parler des ours. On va aussi évoquer les hérissons qui seraient en danger. Peut-être d'ici 2025, plus de hérissons en France. En tout cas, les hérissons européens.
Oui.
On en parlera avec notre invité tout à l'heure, mais dans l'immédiat, on va parler du comportement du chat avec l'un de vos collègues qui vit outre-Atlantique.
Eh oui, Canadien, Daniel Filion, qui est avec nous en studio, voilà.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, Daniel, bonjour. Alors, vous êtes un peu une star dans votre domaine, hein, au Canada, on va dire. Vous êtes éducateur. Alors, oui. Vous êtes aussi en France pour donner des formations et oui. Pour aussi former des éducateurs. Alors, c'est quoi un éducateur?
Un éducateur, c'est quelqu'un qui veut faire connaître un petit peu les besoins du chat, régler les problèmes de comportement que les gens peuvent avoir comme ça à la maison. On pense des fois hein, qu'un chat, il n'y a pas de problème avec les chats et tout ça. Et pourtant, ils ont des besoins, ils ont des problématiques. Donc, on aide les gens dans ce chose. On fait de la consultation.
Comme un comportementaliste félin, comme on les appelle en France?
Exactement.
Alors, on aimerait quand même connaître, vous venez donc du Canada, est-ce que vous savez qu'en France, le chat, c'est un petit peu l'animal du 21e siècle,
oui.
C'est-à-dire que on a beaucoup plus de chats que de chiens en France, hein.
Oui.
13 millions de chats, 7 millions de chiens, c'est l'animal préféré des Français. Est-ce que c'est l'animal préféré des Canadiens?
En fait, c'est l'animal préféré du monde entier. Donc, il y a 3 fois plus de chiens que de chats que de chiens dans le monde, et c'est la même chose au Canada, c'est la même chose ici, c'est devenu l'animal le plus populaire. L'animal domestique le plus populaire, effectivement.
Et qu'est-ce qu'il a comme place dans les foyers canadiens?
Il y a beaucoup sa place. En fait, il y a environ à peu près 30 à 35% des gens qui ont un chat et moitié de ceux qui en ont un deuxième. Donc, c'est très recherché pour le... On délaisse un peu le chien parce que la vie active de tous les jours, hein, ça demande beaucoup pour d'avoir un chien, donc on se rabat un petit peu sur le chat.
Comme en France, en fin de compte. Alors, quelles sont les principales cause de consultation pour les chats concernant, est-ce que c'est les mêmes qu'en France?
C'est un petit peu les mêmes qu'en France, de ce que j'ai pu voir. Là, ça fait 1 an qu'on a une petite filiale française ici et je vois que c'est les mêmes choses. Donc, c'est les éliminations inappropriées, les petits besoins en dehors de la litière.
Comme on dit,
c'est
voilà.
Ça, la malpropreté. Les miaulements la nuit, hein, se faire réveiller à 3h du matin, personne n'aime ça.
Ah, et... même au Canada, ils nous réveillent à 3h du matin.
Mais oui, ça c'est universel, je pense. Hein. Et évidemment, tous les problèmes d'agressivité, que ce soit entre chats ou envers l'humain. Donc, c'est les 3 principaux qu'on a pour ça.
Et est-ce que entre la France et le Canada, comme vous rencontrez en France des vétérinaires, des comportementalistes félins, est-ce que l'approche est différente?
Ça dépend vraiment des régions, mais je vois souvent ici à Paris, surtout, c'est souvent des petits appartements. Si je les compare à ceux au Canada, c'est très, très, très petit.
Pourquoi? Donc, au Canada, les grands appartements sont grands?
Je vous dirais que nos appartements sont à peu près 3 fois la grosseur de ce que vous avez ici. Donc ici, quand on me dit « Ah, oh, c'est un grand appartement », moi je fais comme « Oh non, ça c'est un loft pour étudiants, là c'est... » Alors, donc il y a beaucoup plus de problèmes d'hypostimulation ici dans les grandes villes européennes. Donc il faut vraiment enrichir le milieu, parler d'enrichissement de milieu et tout. Donc c'est un petit peu une approche différente. Et ici, vous laissez beaucoup plus vos chats aller à l'extérieur que nous. Nous, on garde nos chats à l'intérieur
à cause
du climat.
Mais parce qu'il fait froid chez vous.
C'est ça, à cause
Non, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de dire que le Canada, c'est mieux que la France.
Non.
Il fait quand même plus froid et trois chez vous qu'ici, quand même.
Absolument.
Hein.
Absolument.
Ah oui, donc non. Il reste vraiment plus souvent dans le foyer, mais c'est juste un problème de climat. Alors, comment s'organise une consultation d'éducateur? Est-ce que vous allez à domicile ou est-ce que
Il faut aller à domicile parce que le chat est territorial. Donc, la majorité de ces problématiques, c'est dans l'environnement. Donc, il faut voir l'environnement. Maintenant, on a développé, évidemment, au Québec, on a des grands espaces. On peut pas tout le temps se rendre chez les gens. Donc, on va faire aussi des consultations par Skype. On va faire des consultations par téléphone.
Oui.
Mais dans certains cas, on est obligé d'aller voir l'environnement du chat. Donc, oui, on va aller directement chez les gens. Comme
Vous regardez où vit le chat? Vous posez des questions?
C'est ça. On regarde où il vit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui déclenche les comportements problématiques. On va améliorer un petit peu l'environnement. Donc, on va parler aux gens un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se produit. Donc, c'est une consultation, en fait. C'est un petit peu un échange qu'on fait. Donc, les gens nous appellent, nous exposent leurs problèmes. On regarde. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire une consultation. Il y a beaucoup, beaucoup de problématiques qui se règlent en 10 minutes, 5 minutes au téléphone. Juste regarder sur le site Internet. On a déjà mis beaucoup de solutions sur le site d'éducateurs.
Comme dans notre émission.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, et bien souvent, les gens pensent que c'est une problématique qu'on n'arrivera jamais à régler. Et non, pourtant, 85% des problèmes de comportement se règlent et se règlent assez facilement en comportement félin. C'est très facile.
Alors, une différence entre la France, en tout cas l'Europe et le Canada, c'est que chez nous, les griffages, vous savez, le fait d'enlever les griffes des chats, c'est interdit.
Absolument.
Depuis longtemps. Est-ce que c'est pas interdit au Canada?
Non, mais actuellement, on est exactement dans le cœur. Actuellement, depuis 2 ans, il y a certains vétérinaires, des comportementalistes comme moi, qui ont commencé à faire beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre aux gens que le Canada, les États-Unis sont les deux derniers grands pays qui n'ont pas encore interdit cette pratique-là.
Et d'enlever les griffes.
On enlève les griffes. En fait, c'est une amputation. Hein. Mmh. Et là, on est en train de sensibiliser les gens à dire, il existe des alternatives. Et regardez, de l'autre côté de l'Atlantique, ils n'en ont pas de problème. Donc, c'est pas nécessaire de dégriffer les chats. On sert beaucoup de vous comme exemple de dire, regarde, depuis l'an 2000 que vous dégriffez plus et vous en avez pas de problème. Vous êtes habitué.
2004, c'est vrai.
Et vous avez des alternatives et vous avez pas plus de divans ou d'enfants blessés comme ça. Donc, on sert beaucoup de vous pour ça.
Il y a des solutions pour les chats qui font leur griffe là où il ne faut pas. Faut
absolument,
le savoir.
Absolument.
On a Amélie avec nous.
Oui. Amélie qui nous a appelé au 3216. Je connais pas le numéro du standard Radio-Canada.
Oui.
Je sais pas si c'est le même. Et vous passez quand en fait à Radio-Canada? Puisque évidemment
c'est une télé.
Oui, parce que Radio-Canada c'est la télé, c'est la radio.
Et la radio c'est ça, c'est les deux. Oui, c'est ça. En
fait. Et vous passez à quel moment?
C'était les dimanches à 7h heure de l'Est, évidemment, heure du Québec. C'est une émission qui s'appelle Animo, A-N-I-M-O, qui est là-bas. Ouais.
Très bien. Comme quoi, on a une bonne idée de faire la même chose ici en France, finalement.
Oui, en plus, 7h du matin. Il manque plus que les caméras. Voilà.
Et en plus, on se concurrence pas parce qu'il y a du décalage. Donc
oui, exactement.
Les francophones peuvent écouter les deux émissions. Oui. Amélie, bonjour.
Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à votre invité.
Bonjour Amélie.
Bonjour Amélie.
Daniel Filion, je vous présente.
Donc, je vous ai effectivement écrit puis appelé parce que je suis actuellement enceinte d'un peu plus de 3 mois et demi. Mmh. Et j'ai un chat, donc Fastoche, qui a un tout petit peu plus de 7 ans. Et je m'attendais, en fait, j'avais lu beaucoup de choses sur le comportement du chat quand sa maîtresse est enceinte. Et chez Fastoche, j'ai constaté, en fait, aucun changement de comportement. Alors, je n'ai absolument pas changé mes habitudes puisque je suis immunisée contre la toxoplasmose. Donc, je continue de lui donner sa nourriture, je continue de lui faire des caresses, je continue de changer sa litière. Mmh. La seule chose, c'est qu'effectivement, je prends la précaution de laver les mains après l'avoir caressé ou après l'avoir coupé ses griffes.
Très bien.
Mais sinon, voilà, aucun changement de comportement.
Qu'est-ce que vous attendiez comme changement de comportement?
Je m'attendais soit à avoir carrément un rejet de sa part, parce qu'il est, voilà, le bébé commence à avoir les battements de son cœur.
Oui.
Je m'attendais soit vraiment à ce qu'il me rejette, entre guillemets, ou alors au contraire, est-ce qu'il cherche à venir plus souvent vers le ventre, etc.
Alors, juste, Daniel, je vais vous laisser répondre aussi. Concernant le rejet, non, c'est pas parce que vous êtes enceinte qu'un chat va vous rejeter. Au contraire. Moi, ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est que le chat a un changement de comportement dans le sens où soit il vient plus sur le ventre, soit il devient plus câlin. Voilà, dès les premiers mois, voyez, avec sa maîtresse qui est enceinte. Soit il a pas du tout de changement de comportement et le chat est normal. Ça veut pas dire qu'il ne sait pas. Mais oui. Voilà, ça le perturbe pas plus que ça.
Non, c'est une question de routine. C'est parce que souvent, lorsqu'on est enceinte, on va changer notre routine, veut pas. On est en train d'aménager la pièce pour l'enfant, tout ça. Il y a des changements.
Ça perturbe
au niveau du territoire, ça perturbe au niveau des habitudes. Là où vous allez probablement voir un petit changement, c'est lorsque l'enfant va arriver dans la maison. Oui. Là, vous allez probablement voir des petits changements, mais encore là, ça veut pas dire que les changements vont être négatifs du tout. Mais il faut quand même prendre des petites précautions. Moi, ce que je dis souvent, c'est lorsque vous allez accoucher, la première chose que vous allez faire, c'est lorsque vous allez revenir à la maison avec l'enfant, préparer une fête pour le chat là, avec du caviar pour chat déjà préparé dans le frigidaire.
Et là,
il faut que ça soit quelque chose de fort là. Et lorsque
ça
vous rentrez,
ça, les
du caviar canadien.
Donc, ce qu'on veut avoir, c'est lorsque vous allez rentrer à la maison avec l'enfant, on va faire une association agréable entre la venue de l'enfant et donc l'environnement. Donc, on va vraiment récompenser le chat. Toutes les fois que l'enfant pleure, on va le récompenser. À toutes les fois que vous allez allaiter, vous allez également montrer au chat que c'est payant d'avoir un enfant. Toutes les fois qu'il se passe quelque chose qui n'a pas l'habitude de se faire, ben on récompense le chat et le chat va finir par comprendre que avoir un bébé dans la maison, c'est très
bien.
Payant. J'adore ça.
J'ai du caviar.
Oui. Alors, amenez-en des bébés, il n'y a pas de problème, on en veut. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut réagir pour ça.
Oui. Et Amélie, vous allez voir, au fur et à mesure, le chat peut-être viendra sur votre ventre,
Oui. Viendra
se frotter au ventre aussi.
Absolument.
Vous allez voir. D'accord. Mais en tout cas, il le sait que vous êtes enceinte. Il le sait, bien entendu.
Ah, il le voit, c'est certain.
D'accord.
Voilà, Amélie.
Merci.
Et si, Amélie, vous voulez joindre à la fois notre invité Daniel, mais aussi Laetitia, c'est le moment ou jamais. On a encore quelques minutes à passer ensemble avec Daniel. Ça se passe au 3216 ou bien animo@rmc.fr ou via l'appli RMC et via Direct Studio. Vous nous laissez un message via l'appli et automatiquement, ça arrive en studio ici. Et on aura Marie, tiens, dans un instant, qui a deux chats. L'un ne fait pas ses besoins dans la litière. Ah, ça c'est embêtant. Laetitia.
Oui, parce qu'elle a été changée. Ah.
Et voilà.
Ah bah voilà.
On revient dans une minute. À tout de suite, c'est RMC.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, notez, dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h30 sur RMC. Laetitia Barlerin, il est toujours là à mes côtés, vous le savez, comme chaque dimanche, 6h, 8h, c'est votre rendez-vous animaux. Laetitia, nous sommes avec Daniel Filion, qui est spécialiste en comportement, félin au Canada. C'est notre éducateur de ce matin.
Voilà.
Et nous avons Marie, au 32-16. Bonjour Marie.
Bonjour à tous et bravo pour vos émissions.
Merci Marie,
bienvenue.
Bonjour
Marie, merci. On vous écoute.
Alors j'ai deux minettes.
Oui.
J'étais obligée, je dis bien obligée de changer la litière parce que je ne l'ai plus trouvée dans l'animalerie où j'allais.
Oui.
Eh bien c'est la cata parce qu'il y en a une qui l'accepte bien et puis l'autre,
elle fait à côté.
Voilà, mais même pas à côté. Si elle trouve un sac en plastique, elle fait dedans, elle fait ses petites crottes derrière les portes.
Oui.
C'est sympa, ça.
C'est depuis que vous avez changé la litière.
Et oui.
Vous êtes passé de quelle litière à quelle litière? C'est-à-dire, est-ce que c'était de la végétale et puis vous êtes passé à la minérale ou minérale-végétale ou
C'est l'inverse, voilà. C'était de la minérale et je suis passée à la végétale.
Ah, c'est pas la même chose.
Et voilà.
J'ai essayé d'autres minérales, mais ça lui convient pas.
Ah, parce qu'il faudra peut-être revenir à la minérale parce que c'est une question de texture et d'odeur. Daniel?
On dit souvent, les chats préfèrent les substrats doux. C'est un beau qualificatif. Il faut que ça soit un sable fin. Le plus fin que vous pouvez aller chercher, normalement, les chats préfèrent. Et les litières végétales, les nouvelles litières bio et tout ça, le gros problème, c'est que c'est souvent le grain est très gros. Donc, quand on gratte, c'est désagréable. L'autre chose, c'est que c'est souvent des substrats qui sont très légers. Donc, quand le chat entre dans la litière, ça renfonce un peu. Le chat n'aime pas beaucoup ça. C'est pas très, très stable. Donc, d'aller chercher quelque chose qui est le plus dense possible et le plus fin, donc le plus doux possible dans les litières, c'est quelque chose qui pourrait être bon. Et l'autre chose, c'est peut-être de rajouter une ou deux litières de façon temporaire dans d'autres pièces de la maison pour assurer que le chat ait des choix. Et c'est pas nécessairement d'avoir des litières différentes, mais si vous voulez faire ça le plus rapidement possible, on pourrait essayer 2-3 substrats différents dans 2-3 litières à travers la maison. Ça va aller beaucoup plus rapidement.
Oui.
Tester, en fait, les différentes matières.
Le fait aussi de multiplier les litières, peut-être qu'elle associe la litière, le bac en lui-même, où il est positionné, à quelque chose de désagréable. Mm-hmm. Et même si vous changez la litière dans ce bac, pour elle, ce bac, il vaut mieux pas y revenir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi, comme disait Daniel, et je suis tout à fait d'accord, multiplier les bacs à litière, multiplier les litières, et changer, revenir à de la minérale, Marie.
Le plus près de ce que vous aviez avant.
Ah mais je regrette de plus trouver cette litière parce que elle était vraiment très bien quoi.
Et ça arrive très souvent et c'est souvent aussi quand on change aussi l'alimentation qu'on retrouve plus la même alimentation. Des fois aussi le chat ne veut pas la nouvelle. Enfin bon.
Mais c'est vrai qu'il suffit parfois un grain de sable. Alors c'est le cas de le dire, mais un truc qui change dans le comportement du chat pour qu'il soit perturbé.
Le chat est un animal excessivement routinier. Vous savez qu'à tous les matins, vous savez que votre chat est à tel endroit, il est toujours couché aux mêmes endroits aux mêmes heures de la journée. Ça fait partie de sa routine. Aussitôt qu'on change quelque chose dans cette routine-là,
ça perturbe
et ça peut occasionner des problèmes de comportement.
Voilà. Et là, on a la texture, on a l'odeur aussi, souvent. Oui, aussi. L'odeur peut l'agresser. C'est pas un petit peu comme nous, si on va dans des toilettes qu'on connaît bien, l'odeur n'est plus la même. Et puis, c'est des toilettes à la turque et non pas des toilettes. Et
c'est pas pour autant qu'on fait derrière la porte aussi, Laetitia.
on va dans le jardin.
Moi, personnellement, j'arrive malgré tout.
Non, nous aussi au Canada,
on sortir vous aussi.
Un peu comme vous.
Même si vous avez des appartements immenses, c'est pas pour autant que vous faites derrière les portes. Nous avons Pierre qui nous a laissé une petite question, Laetitia, sur Direct Studio. Donc n'hésitez pas, via l'appli RMC sur smartphone, vous pouvez nous envoyer un petit message. Et Pierre qui aimerait avoir une astuce pour les griffes sur le canapé.
Pour éviter, j'imagine, les griffes.
Oui, j'imagine.
Les griffades, comme on appelle.
Oui, ça c'est une
alors
bonne...
moi je pense que si on coupe les pattes du chat, on est tranquille après.
Mais c'est un peu ça qu'on fait au Canada, on coupe, on ampute les doigts du chat.
Voilà.
Ah, c'est très facile. Ça, c'est quelque chose que les gens...
Horrible, ce que je dis,
non mais il est toujours excessif comme ça, François.
Je taquine Laetitia parce que parfois elle est... Mais non, François, on peut pas faire ça.
On peut pas faire ça. Non, il y a des belles alternatives et c'est très simple. Il y a trois raisons pour lesquelles un chat va aller faire ses griffes sur le coin du divan. La première, c'est que c'est souvent les gens vont avoir le petit griffoir. Ils vont s'être acheté le petit griffoir, mais il est un mètre de haut, pas plus. Et il sera pas très solide. Alors, c'est très rare dans la nature qu'un chat va aller faire ses griffes sur un arbre et lorsqu'il va s'appuyer dessus, il va tomber. Donc,
c'est vrai que les griffoirs sont pas très stables.
C'est ça. Faut que ça soit solide. Et l'autre chose, c'est que c'est un peu, quand le chat fait ses griffes, c'est un peu comme si il allait planter une pancarte terrain privé. Et lorsqu'on plante une pancarte privée, terrain privé, on veut l'avoir à l'entrée du territoire. Et non pas dans le fond du territoire, comme beaucoup de gens font, vont aller porter le griffoir dans le fond parce que ça ne fait pas avec la déco, ça ne va pas avec la déco.
C'est souvent moche.
On veut l'avoir là où le chat fait ses griffes, soit sur le coin du divan, c'est déjà là qu'il le fait. On met le griffoir là. On rend le coin du divan désagréable par peut-être un petit peu de papier d'aluminium ou encore moi, nous autres, on utilise beaucoup le ruban gommé double face, le scotch double face qu'on va mettre soit à la base ou sur le divan pour rendre l'endroit désagréable. On a mis l'alternative immédiatement à côté, qui est un bon griffoir solide. Et on attend peut-être 2-3 semaines, le temps que le chat transfère son habitude. Et voilà, le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Et après ça, on peut enlever le papier d'aluminium.
Daniel,
oui.
Est-ce que vous aimez les cafés français des machines automatiques?
Franchement,
nous avons un café français machine automatique ici qui est super bon.
OK.
Voilà. Vous avez vu comme je le vends bien quand même.
Oui, ça va.
J'ai l'impression que vous le survendez quand même. C'est vrai, quand même un café de machine.
On a eu quelques suicides après ce café. Je pense que quand même, on va voir, ça devrait bien se passer. Et vous restez avec nous, on a encore quelques minutes à passer ensemble bien volontiers. Et on revient après la météo et les infos. Vous voulez joindre Daniel et Laetitia ce matin parce que le comportement de votre chat est un peu bizarre ces derniers temps. N'hésitez pas, 3216, animaux@rmc.fr ou bien via l'appli Direct Studio, l'appli smartphone. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC.
Oh là là, Laetitia Barlerin, elle arrive. La question flash. Rappelons le principe. En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Michel. Question qu'on a reçue par mail animaux@rmc.fr. Un chiot, Laetitia,
un chat.
Non, parce qu'un chiot, ça, c'est pas possible. Mais un chat a élu domicile sur le capot de mon cabriolet.
Oh mon Dieu.
C'est gênant.
Ah oui, c'est sûr.
Existe-t-il un répulsif?
Eh oui, mais les chats aiment la hauteur, aiment le confort, aiment la chaleur.
Mmh, ils aiment conduire aussi, c'est bien connu.
Donc c'est vrai, sur le cabriolet, et puis ils aiment les voitures de luxe aussi, les chats. Voilà. Donc c'est vrai que la hauteur sur un cabriolet, mais c'est tellement bien.
C'est tellement classe.
Alors, en répulsif, qu'est-ce que vous avez? Alors, si vous voulez, vous faites une petite recette, là, sur le capot, vous mettez du piment, par exemple,
oui,
du tabasco, des épluchures d'agrumes sur le capot, vous voyez?
Comme ça, disséminé.
Un petit peu de poivre.
Sur mon cabriolet neuf.
Un petit peu de poivre, un petit peu de cannelle, un petit peu d'huile essentielle d'eucalyptus, là, voilà. De la moutarde, allez, tartiner bien moutarde, là, tout le cabriolet, là, ça serait bon.
Parfait.
Ça, c'est pas mal.
Sur les sièges en cuir, c'est bien, non, aussi?
Voilà, si vous pouvez mettre ça. Alors, il y a d'autres façons aussi de faire.
D'accord.
C'est d'aller déranger le chat tout le temps. À chaque fois qu'il s'y met, vous le dérangez. À un moment, il en aura marre d'être dérangé toutes les 3 minutes.
Il ne reviendra pas. Un autre cabriolet.
Ou vous pouvez mettre aussi, on en parlait tout à l'heure pour le canapé, du scotch double face sur le cabriolet. Ça aussi, c'est embêtant
et
pour
oui,
les
parce
chats.
Que quand il va poser les pattes.
Et ça, oui, ça va faire un peu épilation, quoi, pour les poils. Donc ça peut s'y aider. Voilà.
Ouais.
Ça va? C'est ma petite recette, ça va?
Je suis pas sûr que notre auditeur Michel soit complètement d'accord pour la moutarde, ouais.
La moutarde, mais
même le scotch double face sur tout le tour du cabriolet, comme ça, ça va être classe.
Juste sur le dessus.
D'accord, ben oui. Bon, écoutez, Michel, voilà ce que Laetitia peut vous donner comme conseil. Le 3216, animaux@rmc.fr. Appelez-nous, les amis, on est là jusqu'à 8h.
RMC, c'est au 3216.
45 centimes la minute.
Et au 732-16.
65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Encore une fois, et sincèrement, on vous souhaite un excellent dimanche avec nous sur RMC. Profitez-en bien avec une belle journée hein, qui s'annonce et des températures records. Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire. Laetitia attend vos questions bien évidemment au 3216, animaux@rmc.fr ou bien via l'appli sur smartphone RMC. Hein, vous pouvez à tout moment nous joindre. Tout à l'heure, Laetitia, on va parler des hérissons qui seraient peut-être en danger.
Oui, en voie de disparition en France. Voilà.
Et on va aussi évoquer l'ours des Pyrénées dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on a le plaisir d'avoir un confrère à vous, Laetitia. Daniel Fillion.
Un comportementaliste félin, un éducateur.
Qui un éducateur.
Du Canada, n'est-ce pas, Daniel Fillion. Et nous avons avec nous aussi Thérèse qui aimerait vous poser une question.
Oui.
Nous poser une question sur son chat.
Bonjour Thérèse.
Bonjour Thérèse.
Bonjour à tout le monde.
Vous êtes dans le Gers?
Voilà. Oui, c'est ça.
Bon,
oui.
Il paraît que dans le Gers, on mange mieux qu'au Canada. Je sais pas si c'est vrai.
En France, on mange mieux qu'au Canada.
C'est
pas
la même chose, mais je pense qu'on doit bien manger aussi. Hein.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Thérèse? Racontez-nous.
Voilà. J'ai déménagé au mois d'avril de l'année dernière.
Oui.
Et j'ai deux chats.
Oui.
Donc, je les ai amenés, je les ai mis dans la maison. De suite, elles ont retrouvé leur repère dans ma chambre sur ma couette. Elles ont dormi. Elles n'ont pas bougé pendant 2 jours. Impeccable. Après, elles sont habituées. Bon. Et au mois d'octobre, ma siamoise, je la trouve plus. J'ai appelé, je l'ai cherchée. Introuvable. Bon. Dans ma tête, elle était morte. Elle a dû se faire... voilà. Et... j'ai des amis qui habitent pas très loin de chez moi. Elle me dit, mais il y a un siamois qui est là, qui, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, soit la mienne. J'habite juste à côté, elle a pas pu se perdre. Et donc, quand elles l'ont vu, je suis allée voir, et ben, c'était bien elle. Donc, je l'ai mis dans la caisse, je l'ai ramenée à la maison. Elle est allée donc à son point de repère, c'est-à-dire ma chambre avec la couette. Elle a dormi 2 jours, elle me faisait des câlins, elle était contente.
Vous deviez être très content, très heureuse, Thérèse,
oui,
d'avoir retrouvé.
Oui, parce que pour moi, c'était... mais j'arrivais pas à m'expliquer pourquoi elle est partie comme ça, quoi. Et donc, du coup, donc 2 jours enfermée, ben après, elle a voulu ressortir, je l'ai ouvert un peu.
Ouais.
Elle est partie se promener, elle est revenue le soir. Et elle a dormi dans la maison. Le lendemain, elle est ressortie et puis elle n'est pas revenue. Et elle est toujours au même endroit.
Elle est chez un voisin, c'est ça? Elle va chez un voisin?
Oui. Voilà.
Et le voisin, il a d'autres chats?
Non, mais elle s'installe pas forcément chez eux. Elle leur donne à manger. Et la journée, on ne sait pas où elle est, ce qu'elle fait, ni rien. Et parce que là où j'habitais avant, c'était un chat qui était toujours perché. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle monte en hauteur, elle est toujours sur les toits.
Oui.
Et là, il y a une maison où il y a des vieilles cuves à vin. Et le monsieur m'a dit qu'il la voyait souvent là-haut. Alors, je sais pas.
Il va y avoir des souris là-bas.
Ouais, et, mais bon, qu'elle parte la journée, voilà, mais qu'elle ne revienne pas du tout.
Oui, c'est embêtant.
Quelle est l'entente, voilà. Quelle est l'entente entre vos deux chats?
Alors, c'était mère et fille, pas très bien. Mais quand j'ai déménagé et elles se sont couchées toutes les deux contre sur mon lit, on a l'impression qu'elles se réconfortaient d'avoir bougé quoi.
Effectivement, c'est bien ça. Lorsque les chats déménagent, vous savez que les chats c'est des animaux territoriaux. Donc lorsqu'on déménage, qu'ils sont pas attachés à leur territoire, ils vont souvent se rapprocher des propriétaires ou d'un autre animal. Mais au fur et à mesure qu'ils vont prendre leur aise dans leur territoire, là ils vont commencer à s'attacher plus au territoire qu'aux personnes. Et si l'entente entre les deux chats n'est pas idéale, évidemment, le chat va tout le temps rechercher un endroit qui lui plaît beaucoup plus. Et évidemment, si il trouve un endroit où il y a plus d'auteur, où il y a de la nourriture, ou peut-être que le voisin nourrit avec du caviar, on ne sait pas, du caviar pour chat, là, on va avoir ce genre de situation-là où le chat va préférer. Il va tout le temps aller là où ça lui rapporte le plus. Hein.
Et il pense d'abord à lui, le chat.
Évidemment, c'est ça. Donc, peut-être regarder pour avoir un petit peu plus d'auteur chez vous. On sait qu'il aime la hauteur, donc on va avoir plus d'auteur. Peut-être lui montrer que c'est beaucoup plus payant rester chez vous que d'aller à l'extérieur.
Demandez ce que donne votre voisin à votre chat aussi.
Des croquettes. Hein. Et elle rentre pas dans la maison parce qu'elle lui met sur la fenêtre de la maison, et de la cuisine, la petite gamelle, elle va manger.
Et demandez justement d'arrêter.
Oui, faudrait que le voisin arrête.
Vous dites juste que votre chat est malade, qu'il doit avoir des croquettes spéciales parce que
c'est et qu'il transmet une maladie grave, comme ça au moins. Comme ça, il nous touche en plus.
C'est vrai qu'elle doit avoir des croquettes spéciales très très chères et qu'elle doit manger chez vous, voilà.
Ouais. Oui, et voilà, et donc, d'un côté, ça me rassure, si vous voulez, parce qu'elle est vivante, mais bon, ça me fait mal au cœur.
Et oui, vous êtes un peu triste.
Elle est désertée, parce que elle était chouchoutée,
Lorsque vous voyez vos deux chats ensemble qui s'entendent bien, récompensez-le d'être ensemble, les deux, donnez-leur des friandises, des choses comme ça, pour vraiment améliorer la relation entre les deux chats, parce qu'il y a peut-être une petite chose alentour de ça aussi.
Merci beaucoup, Thérèse. Et merci à Daniel d'avoir été avec nous pendant ces 40 minutes.
Et Daniel, qui est éducateur, donc le spécialiste en comportement félin, et qui forme des éducateurs en France, c'est ça?
Oui, maintenant, on a 6 éducateurs en France pour aller faire la consultation, aider les gens qui ont des problèmes de comportement. Donc, on va sur le site internet d'éducateurs, le www.educateurs.com, et on peut regarder là, demander de l'aide, et on peut vous aider.
Et pour les personnes qui veulent aussi devenir comme
devenir éducateur, oui. Ben, j'ai été invité par le Centre de bien-être animal ici pour donner des conférences cette semaine où j'avais 30 passionnés, des gens qui voulaient faire ce métier-là, où on est venu ici pour les former, pour les aider. Donc, on essaie de faire connaître les besoins du chat, de faire connaître qu'il y a des moyens de régler des problèmes de comportement et rendre des chats heureux et des propriétaires surtout très heureux.
Il y a aussi une page Facebook que j'ai vue qui est très active. Donc,
plus de 32 000 personnes qui nous suivent.
Ouais. Parfait. Merci beaucoup.
Merci Daniel.
Merci. Si vous voulez rester avec nous, on est ensemble jusqu'à 8 ans, on va parler d'ours et de hérissons, je ne sais pas si c'est votre spécialité.
L'hérisson, oui.
L'hérisson chatteur, je ne sais pas si c'est
votre spécialité. Les ours aussi, il y en a pas mal au Canada.
On a beaucoup d'ours,
C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même. et justement, on va maintenant évoquer l'ours des Pyrénées, Laetitia.
Voilà, avec Alain Rennes, hein, qui est directeur de l'association Pays de l'ours AD. Alain, bonjour.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Alors vous savez, la semaine dernière, on a parlé du loup en France. Nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'un autre grand prédateur présent en France, c'est bien sûr l'ours des Pyrénées. Alors quelle est justement cette situation? Combien en dénombre-t-on aujourd'hui en France?
Alors le dénombrement, on le fait par année, sur une année pleine. Donc les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2016. Et en 2016, on a réussi à identifier, à détecter 39 ours différents sur l'ensemble des Pyrénées, se répartissant donc en 2 zones géographiques distinctes. Une en Pyrénées centrales, c'est là où on a relâché les ours, on a commencé de le faire il y a 21 ans. Et là, il y a 37 individus, des mâles, des femelles et des jeunes. Et l'autre territoire, c'est le territoire historique de la présence de l'ours dans les Pyrénées, où il, malheureusement, vous avez compris, 39 moins 37 égale 2.
Deux malheureux ours.
Et qui sont deux mâles en plus.
Donc ça va être difficile, ça.
Il y a une situation absolument dramatique sur laquelle il faut absolument intervenir extrêmement rapidement.
Mais la population est en croissance parce que l'année dernière, 10 oursons sont nés. C'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que je sais que les femelles se reproduisent en hiver, pendant l'hibernation. Attendez-vous d'autres oursons pour ce printemps?
Ah oui, absolument. Hein. Les oursons sont nés donc cet hiver. Maintenant, on ne sait pas encore combien il y a de portées, combien il y a d'oursons. C'est encore un peu tôt. Peut-être là que probablement fin mai, début juin, on aura les premières détections et on espère avoir un chiffre à peu près équivalent à celui de l'année dernière, c'est-à-dire 4, 5 portées, 8 à 10 oursons.
Ça veut dire que la population... Alors, outre les deux mâles qui sont isolés, mais la population principale augmente.
La population principale, effectivement, qui est devenue principale, augmente. On a quand même deux soucis sur cette population. C'est que cette population procède d'un trop petit nombre d'individus au départ, ce que l'on a lâché. Et du coup, on risque d'avoir à terme des problèmes de consanguinité.
Ah oui.
Donc, il faut à la fois augmenter encore le nombre d'individus et aussi apporter ce 109 pour résoudre justement ou éviter ces problèmes de consanguinité qui, pour l'instant, n'interviennent pas, mais risquent fort de dans les années à venir.
Alors vous savez que bon, ces dernières années, on parle beaucoup dans les médias du problème des loups, problème de cohabitation avec les bergers. Est-ce qu'on a le même problème avec l'ours? C'est vrai qu'on en parle très peu. On en a beaucoup parlé au début quand on a relâché les ours parce que les bergers s'inquiétaient justement de la présence de ces prédateurs. Est-ce qu'on a des attaques de moutons? Est-ce que le nombre est en augmentation par rapport à la population?
Alors, il y a effectivement des attaques sur les troupeaux, qui sont les troupeaux qui ne sont pas ou mal protégés. Mmh. Mais ceci dit, on observe effectivement qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'ours et le nombre de dégâts.
Ah
tout
oui
simplement parce que les moyens ont été mis en œuvre par les pouvoirs publics pour financer les moyens de protection, c'est-à-dire le rassemblement des troupeaux toutes les nuits, les chiens de protection, les patous, le montagne des Pyrénées, c'est le gros chien blanc là, qui est très efficace. Et tout ça, ça a permis effectivement de dissuader la plupart des ours et d'attaquer les troupeaux. Je ne dis pas que ça n'arrive plus, mais on a par exemple plus de deux fois plus d'ours qu'il y a une dizaine d'années et deux fois moins d'attaques. Donc
ah
on
oui
voit bien effectivement qu'il n'y a pas de rapport entre les deux.
Comme quoi, protéger les troupeaux...
Oui, ça a du sens.
Ça a du sens, hein, parce qu'on en parle...
Sens, voilà. Ça a du sens et c'est très efficace parce qu'en fait, l'ours est un animal omnivore et un animal opportuniste. C'est-à-dire que si, on va faire simple, si le frigo est ouvert, eh bien, effectivement, il y va. Si, par contre, le frigo est fermé, eh bien, il n'y va pas. Et comme il peut trouver d'autres sources de nourriture par ailleurs, eh bien, il se reporte assez facilement sur autre chose. Et du coup, les troupeaux ont moins de soucis.
Donc, il ne faut pas le tenter, quoi, en quelque sorte, c'est ça?
Voilà.
C'est exactement ça. C'est un opportuniste. Si vous laissez le paquet de bonbons ouvert, il n'y a pas de problème, il ira les chercher.
Moi aussi. Quelle a été pendant 5 ans la politique ours du précédent gouvernement? Parce que c'est bien de faire un bilan là avec ce changement de gouvernement. Quelle a été la politique ours de Ségolène Royal?
Ah, la politique ours, elle n'a pas été très courageuse. On va dire que pendant 5 ans, enfin, elle n'a été ministre que 3 ans, mais les autres ont fait la même chose. Ils se sont ingéniés, on va dire, à perdre du temps pour en gagner via des concertations, des études et autres. Ce qui a fait que ça a permis, justement, au moment où la décision devait être prise, Ségolène Royal s'était engagée, devait prendre une décision avant de partir, les textes étaient prêts, toutes les consultations avait été faite elle n'a pas décidé et donc elle laisse le dossier en l'état à son successeur
décider...
qui maintenant va devoir prendre une position.
Décider de quoi? De relâcher d'autres ours pour enrichir génétiquement la population?
Voilà, d'une part, et d'autre part, de commencer la restauration de la population à l'ouest des Pyrénées, là où il n'y a plus que ces deux mâles et il faut absolument lâcher des femelles et rapidement.
Ah les pauvres! Ils sont tous. C'est vrai que pour se reproduire, ça va être difficile, hein, de mal. Hein.
C'est ça. Alors le gouvernement a bien fait le mariage pour tous, mais là, qu'ils n'en veuillent pas, ça résoudra pas le problème pour les ours.
Et donc, ce que vous demandez au nouveau gouvernement, c'est justement d'avoir une politique de relâcher justement des ours, comme on l'a fait il y a 21 ans, parce que le dernier ours à être relâché comme ça dans les Pyrénées, c'était il y a 21 ans.
Non, j'étais les premiers qui ont été lâchés il y a 21 ans. Hein. On a lâché donc deux femelles en 96, un mâle en 97, ensuite cinq individus, quatre femelles et un mâle en 2006. Et dernier individu qui a été lâché, on en a moins parlé parce que c'était par nos amis et collègues espagnols, il a été lâché l'année dernière, ce qui était un mâle, déjà aussi pour apporter un peu du sang neuf. Donc neuf individus au total, le dernier en 2016. Alors c'est étonnant, c'est tous les années en 6, c'est-à-dire que pendant 2016, 2006 et 1996, tous les 10 ans, ça a été le hasard.
Bon, ben, on espère en tout cas que vous allez être entendu cette fois-ci. Mmh. Et bon, on dit quand même que bon, l'ours, ça a quand même certains avantages économiques pour la région.
Alors, l'ours, ça a un avantage économique, pour autant qu'on mette en place une politique de valorisation.
Mais
une politique de valorisation, il faut aussi d'abord que l'espèce soit conservée et durablement. Et nous, on travaille beaucoup avec les professionnels. Les professionnels nous disent, mais nous, bien sûr qu'on va utiliser l'image de l'ours. C'est une image fantastique pour le territoire. D'autant plus qu'il en reste que dans les Pyrénées. Mmh. Mais au moins, faut-il qu'on soit certain qu'il en reste à long terme. Sinon, on va pas s'engager, nous, sur une politique de valorisation si on sait pas s'il en restera dans 5 ans.
Merci beaucoup Alain.
Merci beaucoup, merci pour ce bilan. Donc je rappelle que vous êtes directeur de l'association Pays de l'Ours AD. Alors si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'ours, sa situation, l'ours des Pyrénées, sa situation, et voir des petites vidéos d'une ours avec ses oursons, par exemple.
C'est trop mignon.
Allez sur paysdelours.com, tout attaché bien sûr.
Et Daniel, comment sont considérés les ours justement au Canada ?
Ça fait partie de la faune, ça fait partie du décor. Ils sont.
Il y a pas de problématique.
Aucune problématique. C'est la même chose. On protège, on dissuade pour venir proche de la population. Et le reste, on les laisse vivre. Chez nous, ils ont suffisamment de territoire.
Oui, c'est vrai.
Problème.
C'est vrai qu'il y a des étendues qui sont immenses. On revient dans un instant. On va s'intéresser à un animal beaucoup plus petit qui pique un peu plus, quand même, hein, puisqu'il s'agit du hérisson. Le hérisson serait menacé de disparition, les amis. On en parle dans un instant. Et si vous avez des questions sur des hérissons, n'hésitez pas. Le 3216, animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 8h-10. Encore une fois, bienvenue chez nous. C'est RMC. C'est le week-end des experts, c'est les animaux, que vous écoutiez en direct ou même peut-être en podcast, hein, en replay. Eh bien, merci d'être là et d'être fidèle à ce rendez-vous unique en France. Un seul RMC vous propose 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches. Laetitia, on va maintenant parler des hérissons.
Et oui, et d'une pestition qui s'appelle tout simplement Sauvons les hérissons. Et nous sommes avec Christophe Vixgras, qui est porte-parole de la pétition Sauvons les hérissons. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, des associations de protection de la nature, des vétérinaires, ont lancé cette pétition qui a déjà près de 88 000 signatures. Vous dites dans cette pétition que si rien n'est fait, le hérisson aura disparu d'ici 2025, c'est-à-dire moins de 10 ans en France. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le hérisson ?
Il y a plusieurs menaces. Il y a les accidents de la route, c'est la première cause de mortalité.
Oui.
Il y a l'emploi des pesticides et la destruction de son habitat d'origine.
Oui.
Et puis aussi le développement des jardins en particulier et surtout des tondeuses à gazon. Donc ces trois causes font que paradoxalement, l'hérisson ne peut plus vivre dans la campagne parce que l'agriculture intensive détruit son habitat.
Donc, et son alimentation.
Oui, et puis l'emploi des pesticides, vu que notre agriculture, c'est une des fiertés nationales hein, par ailleurs, emploie énormément de pesticides. On est le pays au monde qui emploie le plus de pesticides par hectare. Donc le hérisson est renvoyé dans nos zones périurbaines. Mais là, tout le monde n'a pas les bons réflexes pour faire de son jardin un spot pour les petits animaux.
Et que demandez-vous dans cette pétition ?
Plusieurs choses. D'une part, de mettre à jour une réglementation qui date des années 2000 et qui fait que on ne peut pas porter soin à un hérisson comme on voudrait. Il y a tout un carcan administratif.
Mais comme tous les animaux sauvages, hein, normalement.
Absolument. Voilà.
Quand on recueille un animal sauvage, il faut l'amener dans un centre de soins ou chez un vétérinaire pour le faire soigner.
Voilà. Mais alors, le seul truc, c'est qu'en Angleterre, où il y a des statistiques sur la, sur cette espèce qui est en Angleterre, ils viennent de mettre le hérisson sur la liste rouge. C'est-à-dire qu'ils ont compris, parce que eux, ils font des statistiques sur la quantité d'hérissons. Ils font des statistiques sur cet animal, et ils ont donc programmé la disparition de l'hérisson d'ici quelques années. Et donc c'est nous, simples individus qui aimons cet animal, on fait juste des rapprochements avec ce qui se passe en Angleterre.
Oui, parce qu'on n'a aucun effectif, on ne sait pas le nombre d'hérissons qui sont en France, le taux de mortalité, ça, il n'y a aucun chiffre. C'est pour ça
non,
aussi que...
Non, parce que pour l'administration française, il n'y a aucun problème, puisqu'il n'y a aucun chiffre.
Eh oui, donc rien n'est fait en fin de compte, voilà. Rien n'est fait
donc,
pour...
Voilà, et ça fait un an, c'est juste un fait, c'est que nous avons une réglementation qui donc encadre strictement et pour des raisons qui sont très vertueuses, donc le soin qu'on portait à des animaux sauvages, seulement on met au même niveau un grand rapace, un orque et un hérisson. Simplement, en Angleterre, on considère juste que tout à chacun peut porter soin à un hérisson si on le fait avec un vétérinaire. En France, non. Il faut deux ans d'expérience, et il y a très peu de gens qui l'ont. C'est juste qu'en Angleterre, il y a 300 centres pour les hérissons, et en France, il y en a à peine 20.
On sauve
royalement un peu moins, environ 1800 spécimens en France, alors qu'en Angleterre, on en sauve 20 000.
Bon. Eh bien, Christophe, merci.
Écoutez, voilà, si vous voulez signer cette pétition, hein, pour que justement, on puisse, beaucoup plus de personnes puissent être formées et sauver les hérissons, en tout cas soigner les hérissons, vous allez tout simplement sur sauvonslehérissons.fr, c'est tout attaché, et vous avez un lien pour la pétition, pour que voilà, ça bouge un peu.
Merci,
et
Christophe.
Qu'on ait aussi beaucoup plus de chiffres sur les hérissons. C'est vrai qu'il n'y a aucun chiffre, on ne sait pas du tout si vraiment la population diminue, comme en Angleterre, qui sont très hérissons, hein. C'est vrai, les Anglais, ils s'inquiètent beaucoup des hérissons, de leurs hérissons.
Moi, ça augmente chez moi, hein, la population de hérissons.
Alors,
j'en ai trois
dire...
dans le jardin, qui cohabitent avec les six chats d'ailleurs, bonjour.
Surtout dans la gamelle.
Oui, c'est vrai.
Mais
les chats, au début, ça les amusait, les hérissons, et maintenant, ils se méfient.
C'est sûr.
Et nous avons, un témoignage sur le mail animaux@rmc.fr d'un auditeur qui nous dit: j'habite une maison en ville et tous les ans, je retrouve plusieurs hérissons, 6 l'an passé déjà, 2 cette année. En fait, c'est ma chienne qui les trouve le soir lors de sa sortie avant d'aller se coucher. Heureusement, elle n'a jamais essayé de les attraper et elle ne s'est jamais blessée. Je les attrape et je vais les relâcher à plusieurs kilomètres, mais j'en retrouve tous les ans.
Bah, c'est-à-dire que les hérissons se réfugient dans les jardins, tout simplement, comme on venait de le dire.
Ouais.
Dans les campagnes, il y a peut-être trop de pesticides, donc pas assez d'insectes.
Donc il se rapproche
des habitations.
Des habitations parce que là, il y a
en périurbain, voilà, parce qu'il y a à manger. Et puis il y a aussi des coins pour aller se protéger la journée, puisque les hérissons ne sortent que la nuit.
D'accord.
Et dernier conseil, si vous voyez un hérisson en pleine journée, qui est actif ou que vous le voyez, ça veut dire qu'il est malade. Ah. Et il faut l'emmener direct chez un vétérinaire.
Le vétérinaire.
Ou un centre de soins de la faune sauvage.
Au Canada, vous en avez beaucoup des hérissons, Daniel?
Non, je vois que les problématiques sont pas du tout les mêmes. On en a quelques-uns, mais ça c'est pas quelque chose qu'on discute en tout cas.
Et puis ça doit pas être la même espèce, je pense aussi.
Oui,
non,
ça doit, parce que là c'est le hérisson européen.
Voilà,
chez vous,
ils sont beaucoup plus gros. Oui, c'est ça, j'allais dire.
Ouais.
Ils sont beaucoup plus
gros. Ils font 3 tonnes, enfin. C'est ils font la taille d'un hummer à peu près. Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Un plaisir, toujours un plaisir.
Merci Daniel Pignon.
Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. On sera là.
Oui. Bien sûr, je vous souhaite un très bon dimanche sous le soleil. Allez, sortez un petit peu vos animaux là. Faites attention quand même à la chaleur, hein, les coups de chaleur. Hein, les chats, les chiens aussi sont très sensibles.
D'ailleurs, la piscine de Jean-Luc Moreau peut réceptionner tous les chats et les chiens qui
Malheureusement, elle est trop chaude. Elle est à 32 degrés, donc ça va pas être possible.
Non, mais je pense que pour les chiens, ça va.
Ça va pour les chiens.
Faut rester dans la piscine, je peux donner votre adresse
pour réceptionner tous les chiens de l'île de France.
Les chats de la maison seront pas d'accord du tout pour accueillir des chiens.
Mais faites attention aux hérissons qui peuvent se noyer dans la piscine.
Jean-Luc, ils peuvent pas accéder.
Vous n'avez pas conscience de ça.
Non. Le rebord est suffisamment haut. Ils peuvent pas accéder à la piscine.
Ouais, moi je suis pas sûr. Laetitia, il faudrait qu'on aille faire un audit de la piscine.
Exactement.
D'accord.
Vérifier avec le centimètre là si vraiment c'est assez haut, etc. Et vérifier surtout la température de sa piscine.
En plus, Laetitia Dimanche, et dans un instant vous l'avez reconnu, il est là, Jean-Luc Moreau, notre expert auto, expert en hérisson aussi, en piscine. On va pouvoir aborder pas mal de sujets dans un instant sur RMC avec vos questions au 32-16. À tout de suite.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.